Bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus en ce lieu. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons autour de la parole de notre Seigneur pour la découvrir, peut-être pour apprendre, mais en tout cas pour aller à la rencontre de la parole de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une parabole, cette parabole sur les 10 vierges. Donc bien sûr, chaque détail de cette parabole a une valeur symbolique. Mais nous allons essayer de voir ensemble certains points clés, là où le Seigneur veut nous amener dans cette réflexion. Jésus a beaucoup aimé utiliser les paraboles pour donner une illustration. Alors, ce n'est pas des petites histoires rigolotes, ce sont des histoires tout à fait sérieuses pour replacer dans un contexte le message de la parole de Dieu. Sur la montagne des Oliviers où Jésus et ses disciples sont montés, ces derniers posent à Jésus des questions sur son avènement et sur la fin du monde. Jésus parle des temps de la fin en précisant que seul le Père en connaît le programme exact. Jésus rappelle les circonstances du déluge, il se sert de la similitude des événements et insiste sur la préparation de chacun. Donc là, cette parabole tourne autour d'un événement, le mariage, en l'occurrence le mariage juif. Et le point culminant des noces juives se situe lorsque l'épouse entre dans la maison de l'époux et devient membre de la famille. Il en découle deux coutumes. Premièrement, le festin a lieu dans la maison de l'époux, comme pendant les noces de Cana. Et deuxièmement, l'époux va chercher l'épouse en cortège avec des lampes, de la musique, des chants, pour ramener chez lui, dans la salle de noces, son épouse. Il faut savoir aussi que les jeunes filles, parce que là, elle s'adresse aux jeunes filles, les jeunes filles du village pouvaient se joindre au cortège et être admises au festin sans invitation particulière, à condition d'être revêtues d'habits de fête et d'avoir avec elles leur lampe, selon la tradition. Et là, donc, dans cette parabole, Jésus met en scène deux groupes de jeunes filles qui viennent attendre le cortège quelque part entre les deux maisons, pour pouvoir ensuite prendre la suite du cortège. Elles apportent leurs lampes pour être admises dans le cortège illuminé. Donc j'imagine qu'elles se sont parées de leurs plus beaux habits et elles ont pris leurs lampes. Leurs lampes se composaient d'un petit réservoir d'huile avec un bec dans lequel trempait une mèche. Il est dit dans cette parabole que 5 d'entre elles étaient folles. Tête en l'air. Elle ne pense apparemment qu'au plaisir de la fête et non à ce qui a été exigé pour en être. Je m'explique. Les 5 autres sont prévoyantes, elles sont sages. Qu'est-ce que ça veut dire sage? Bien sûr, c'est le contraire de folle, Mais elles se sont préparées. Elles réfléchissent, elles se sont dit que peut-être il risque d'y avoir de l'attente. Et comme les poutardes, tout le monde s'endort. Les lampes brûlent, et quand la lampe brûle, elle consomme de l'huile, bien évidemment. Et il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas se procurer du feu, de l'éclairage, n'importe où. Il n'y avait pas d'éclairage public, il fallait avoir son équipement. L'époux arrive enfin, donc les lampes doivent être apprêtées. Les sages ont eu la précaution d'apporter une réserve d'huile. Quant aux folles, elles n'en ont pas. Et leur lampe est presque vide. Les vierges sages sont admises dans le cortège, mais les vierges folles le manquent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus de lumière. Quand elles reviennent et frappent à la porte, qui est maintenant fermée. Il n'y a aucune raison pour qu'on leur ouvre. On ne les connaît pas. Elles n'ont pas participé au cortège. Et la conclusion de Jésus est claire. Veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le souci de Jésus au travers de cette illustration de la parabole, c'est pas de nous dire qu'il y a 50% des chrétiens qui seront enlevés et les autres non. Mais c'est surtout d'insister et de nous montrer l'importance de la préparation, de notre préparation en tant que chrétien. Il faut savoir que l'huile aussi, ça, c'est un symbole. L'huile, dans la typologie de l'Écriture, est le symbole du Saint-Esprit. Peut-être aussi dans cette parabole, ça souligne l'importance capitale d'être né de nouveau, né de l'Esprit. Et ce qui est né de l'Esprit ne vit plus selon la chair. Romains au chapitre 8 au verset 13 nous rappelle ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cette nouvelle naissance, elle est indispensable pour participer à l'enlèvement. Car c'est précisément le manque d'huile qui fit la différence entre les sages et les folles. Bien sûr, cela ne doit pas nous faire vivre non plus dans une constante appréhension de « je ne suis pas prêt » ou « est-ce que je suis prêt ?» ou « quand est-ce que je vais être prêt ?» Si nous nous efforçons sincèrement d'obéir au Seigneur et de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, nous pouvons connaître le repos de la foi et attendre la venue du Seigneur Jésus avec sérénité. Qu'est-ce qu'il est important aussi de souligner dans cette parabole ? C'est la réponse des sages qui répondirent aux folles. Non ! Il n'en aurait pas assez pour vous et pour nous. Il y a cette notion importante de « vous ne pouvez pas emprunter ». On ne peut pas emprunter la foi de l'autre. On ne peut pas emprunter la persévérance de l'autre. Chacun fait son expérience. Une leçon particulièrement importante de cette parabole. Et quel que soit notre niveau de foi, de courage, de caractère, de conviction, de préparation, de bonnes œuvres, ou le degré de notre conversion, je ne peux pas prêter et je ne peux pas emprunter. Je ne peux pas sauver l'autre et l'autre ne peut pas me sauver. Je ne peux pas partager, je ne peux pas en donner aux autres. Je ne peux pas donner ma foi aux autres. Il doit faire l'apprentissage de sa foi. Là, on parle de qualité strictement personnelle. Chacun bâtit sa coopération avec Dieu, sa relation avec Dieu. Les Écritures révèlent aussi que ce que nous bâtissons sera soigneusement testé. Si le test est positif, nous serons récompensés. S'il est négatif, nous perdrons notre récompense. Ainsi, la façon dont nous construisons et les matériaux que nous utilisons, si on peut parler de matériaux et de construction, est très important. Nous devons bâtir avec soin et avec sagesse, et non avec folie. En se disant, ça y est, c'est bon, je crois en Dieu, donc maintenant, je suis sauvé, quoi que je fasse. Et là, si on se replonge dans cette parabole, dans ces explications, dans cette signification, on voit que la notion de préparation est très importante. Amos, chapitre 4, verset 12, écrit ceci, prépare-toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, à la rencontre avec ton Dieu, prépare-toi. Dans Matthieu chapitre 24, il est important aussi de souligner « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Souvenez-vous, Noé. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Donc il y avait les sages d'un côté et les fous de l'autre. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne le savons pas. Cet après-midi, demain, l'année prochaine, dans 100 ans, dans 1000 ans, nous n'en savons rien. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, on l'attendrait de pied ferme. Il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison, ne se laisserait pas dérober. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, pourquoi ? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Même si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Oh, mon maître tarde à venir » et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un jour, Jésus a dit cette chose-là. C'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur » qui sera sauvé. Il frappera et je ne l'ouvrirai pas. Je lui dirai « Je ne te connais pas ». Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quelle heure votre Seigneur viendra. On trouve tout ça dans Matthieu 24. Dans Marc 13 aussi, il y a cette notion de prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Chaque fin de journée, le serviteur devait s'assurer que tout était propre, rangé, le garde-manger rempli, afin que si le maître rentrait en pleine nuit ou tôt le matin, ce serviteur ne se soit pas pris au dépourvu ni un défaut, comme nos vierges folles. Si elles avaient eu leur réserve d'huile, elles n'auraient pas eu besoin d'en demander et d'en manquer. Cette parabole nous parle de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Nous sommes l'Église et l'épouse du Christ. C'est un avertissement important pour chaque chrétien. Un appel pour chacun de nous à ne pas être négligent, mais sage, à être prêt, à œuvrer pour l'avènement du Seigneur. Car les événements actuels, et de plus en plus, nous voyons les prophéties qui précèdent le retour de Jésus s'accomplir peu à peu. Le monde chancelle sur ses bases, comme un homme ivre. Il y a de la confusion, il y a de la rébellion, les valeurs sont renversées, les guerres, les catastrophes naturelles. Et tout cela nous dit, préparez-vous. Nous sommes avertis, nous, chrétiens, préparez-vous, car Jésus revient, l'époux vient, Jésus vient. Alors comment se préparer, justement? Pratiquement parlant, quelques pistes. Quelques pistes. Il faut veiller sur nos voies. Il faut veiller sur notre façon de marcher avec le Seigneur. Marcher dans la sainteté. En ayant les regards fixés sur Christ et non pas sur ce monde. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit continuer à nous transformer, à nous modeler. Notre culture, elle n'est pas de ce monde. Notre culture n'est pas de ce monde. C'est un monde déchu. Et notre culture, c'est celle du royaume de Dieu. Et on doit vivre dans cette perspective du royaume de Dieu. Jésus nous encourage à prier sans cesse. Prier sans cesse. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Est-ce que quand je dors, je peux prier? Le Seigneur n'a pas du tout dit que à partir du moment où vous serez chrétien, vous aurez le droit de dormir 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il n'y a pas du tout cette notion dans la parole de Dieu. Mais de savoir que lorsque nous nous couchons, nous avons remis notre sommeil entre les mains du Seigneur. En disant, Seigneur, je suis prêt. Et si je ne suis pas prêt, je règle mes affaires. Prier, c'est demeurer en communion avec Dieu, en communion et en communication. Ayant toujours les pensées tournées vers lui. Et c'est justement dans ces temps de prière que le Seigneur remplit notre lampe, met de l'huile dedans. Il met notre carburant de chrétien. Nous vivons dans sa présence et il nous nourrit. C'est dans ces moments-là aussi de prière que nous recevons sa force. Sa force aussi de résister aux tentations du monde. Dans Luc 22, verset 40, Jésus dit « Priez afin de ne pas tomber en tentation. Priez. Priez. » Un chrétien ne peut pas dire, moi, maintenant que je suis chrétien, j'ai pas besoin de révision, j'ai pas besoin d'entretien, hein, je pensais à une voiture ou peu importe, un avion, ou voilà, j'ai pas besoin d'entretien, j'ai pas besoin de vidange, j'ai pas besoin de contrôle technique, tout roule. Mais non. On a besoin d'entretenir. On a besoin de nous entretenir. Et nous avons besoin de nous laisser entretenir par Dieu. Et nous avons besoin aussi de nous consacrer. De ne pas nous laisser distraire par toutes les futilités du monde. Encore une fois, Dieu ne dit pas, soyez des ermites. Allez retourner à l'âge de pierre. Non, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Les tentations du monde aujourd'hui, c'est de tellement occuper notre esprit que cela réduit notre temps de communion avec notre Seigneur. Et à la fin de la journée, on se dit « Ah, maintenant, je suis tellement fatigué, Seigneur. À demain. » Je vous dis ça parce que ça m'arrive. Seigneur, je suis tellement fatigué. J'ouvre ma Bible, je m'endors à la première ligne. Non. Maintenant, j'apprends, et je continue à apprendre. À me dire non, Seigneur, là, stop. Je prends ta parole et je la lis et je la médite. Pour rester imprégné, pour rester nourri, pour te dire, Seigneur, remplis ma lampe. Remplis ma lampe de ton esprit. Nourris-moi, abreuve-moi. Et puis aussi, donc, comment se préparer aussi, c'est voilà, soyez en communion les uns avec les autres. C'est le symbole de la croix. Christ est descendu verticalement pour s'adresser à tous les hommes horizontalement. Et nous avons cette communion avec Dieu verticalement, mais nous avons aussi la communion avec les autres horizontalement à avoir. Elle est importante, elle est nécessaire. Sinon le Seigneur n'aurait pas envoyé les dons spirituels sur ses enfants pour le bien de son Église, de sa chère épouse. Nous avons besoin de communion fraternelle pour nous soutenir, nous encourager, pour partager, pour veiller ensemble, veiller les uns sur les autres. Dans Actes 2, 42, il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est un ensemble de chrétiens, mais c'est ce qui fait sa valeur. C'est pas un ensemble de points séparés. C'est un ensemble de points homogènes. Quand vous prenez le symbole de l'ADN, tout est lié. Il n'y a pas des atomes qui se baladent comme ça tout seul. Ouh, c'est moi. Je suis l'atome du pied. Oui, qu'est-ce que tu fais tout seul? Coucou, je suis l'atome de la main. Oui, mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Non, je fais partie de ce corps. Tout est lié. Et nous aussi, nous devons avoir cette notion, cette sensibilité. De communier ensemble. Et puis j'aime bien cette image, c'est que la fiancée, elle est amoureuse de son futur époux. Elle l'attend. Elle est impatiente de le voir. Son cœur bat. Sa lampe est prête. Les réserves sont prêtes. Et quand l'époux va venir, on pourra faire la fête. On pourra pas dire « Oh, Seigneur !» Il faut que... Non, c'est trop tard. Tu n'es pas prêt. Son cœur bat pour son bien-aimé. Celui que son cœur aime par-dessus tout. Il y a un chant qui dit « Je te donne ma vie, elle ne m'appartient pas. Ce que j'ai de meilleur, Seigneur, c'est pour toi. D'ailleurs, ce que j'ai de meilleur, c'est toi qui me l'as donné. » Je te le consacre, Seigneur. On revient sur la consécration. Seigneur, tu m'as donné un don pour la musique. Voilà, je le partage avec l'Assemblée. Tu m'as donné un don pour le chant, mais je le partage avec l'Assemblée. Tu m'as donné un don pour la lecture, je la partage avec l'Assemblée. Elle n'est pas pour moi. C'est pas. Il n'y a aucun don, quand vous les relisez, il n'y a aucun don qui est égoïste. Mais par contre, dans cette parabole, on ne peut pas partager la foi. On ne peut pas partager le Saint-Esprit. Tenons-nous prêts? Tenons-nous prêts, nous, cette église, cette épouse? Parce que l'époux vient bientôt. Même si on ne connaît pas ni le jour ni l'heure, on ne peut pas se donner un temps. Se dire, ben voilà, là j'ai un temps de préparation, on verra après. Non, prions pour que Seigneur, aide-moi à être prêt. Montre-moi comment être prêt, aide-moi à y travailler. Je veux être prêt. Que Dieu bénisse sa parole et la rende surtout fertile en nos vies, qu'elle puisse produire en nous les fruits, et notamment les fruits de l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.